qui se pointera la première. Tu démontes la passerelle, la calade du net arrière.
Plus homme des femmes, mais la mienne n'en veut Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Plus homme des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux.
Tout est gravé quelque part sur ma peau. Tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Blessure de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros.
Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte.
De toutes ces sociétés qui sont précédées, elles valent pas plus cher les unes que les autres. Je suis contre Macron, je suis contre ce gouvernement-là, contre les deux autres qui ont précédé, etc., etc. Nous sommes les grands oubliés. Nous, on n'avait rien choisi du tout. On compte pour du beurre. On ne parle absolument pas de nous. On va être les grands, grands oubliés. On est les grands oubliés. On le sera encore plus quand on sera tous passés de l'autre côté, quoi. Pour employer un terme militaire, qu'on aura passé l'arme à gauche.
Quel rapport peut-on faire entre les gilets jaunes de 2018-2020 et la guerre d'Algérie de 1954-1962? Eh bien, le rapport pourrait être Christian, enfant du peuple et orphelin de père né en 1940, ouvrier en retraite, syndicaliste, Christian est gilet jaune depuis novembre 2018. Il est aussi ancien combattant, car à 20 ans, on l'a envoyé faire la guerre d'Algérie entre 1960 et 62. Christian y a fait du maintien de l'ordre en essayant d'avoir le plus d'humanité possible, ce qui est parfois loin d'être le cas de certaines brutes policières d'aujourd'hui et d'hier. J'ai un jour entendu Christian expliquer ça à un policier qu'il bousculait, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vous avez aujourd'hui rendez-vous avec Christian, on se retrouve à côté des jets d'eau du centre-ville de notre petite ville de province. Et vous allez entendre une parole extrêmement rare sur le tabou de la guerre d'Algérie. Christian va librement vous parler d'une période où le pouvoir a bousillé toute une génération de jeunes gens qu'on a obligés à faire cette guerre dont personne ne parle, et surtout pas les pauvres gars qu'on a forcés à la faire et qui en sont parfois revenus déglingués et en tout cas changés. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Vous allez passer une heure avec Christian sous un parapluie, car il pleut en cet énième samedi de gilet jaune. Salut Christian.
Salut, salut tout le monde.
Visage familier, ça fait plusieurs fois que je te croise, pas seulement le samedi en gilet jaune d'ailleurs, non, t'as fait des manifs syndicales.
J'étais un ancien responsable syndical au niveau de l'union départementale, CGT. Aucune appartenance politique, mais par contre un syndicaliste pur et dur. Syndicaliste avant d'être un cégétiste d'ailleurs. Hein.
T'es retraité, Christian?
Oui, hélas, oui, ça fait longtemps. Hein. Je vais avoir 80 berges, alors il y a longtemps que je suis en
retraite. C'est pas vrai.
Ah si, mais si.
Voilà, en pleine forme. Les gens de droite ont raison. Quand je vois tout le jus qu'on pourrait encore tirer des gens...
Faudrait les remettre au boulot.
Faut les remettre au boulot, ces gens-là. Oui, oui, c'est sûr. Mais je travaille autrement tous les jours, mais je suis mon propre patron. Des fois, je m'engueule quand je réussis pas ce que je veux faire, mais bon...
Donc tu es né en...
Bah, je suis né en 40.
Gilet jaune depuis novembre 2018.
Oui, par hasard, j'allais faire un échange de semelles de chaussures pour ma femme. Je suis tombé sur les gilets jaunes qui m'ont barré la route. Alors ils m'ont expliqué pourquoi ils étaient là. Ben, je dis, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. J'en ai marre que les organisations syndicales, même celles auxquelles j'appartiens, ne bougent pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et depuis, ben, j'ai toujours été là. J'étais 2 mois sans venir parce que j'ai pensé aux petits oiseaux, j'ai voulu leur mettre un nichoir à hauteur. J'ai un camarade, un copain de régiment d'ailleurs, on a fait l'Algérie ensemble, qui a voulu me tendre un outil et monter sur la même échelle, mais elle n'a pas supporté les deux bons hommes. J'ai fait une chute en arrière, tassement des vertèbres, 1 mois couché et 1 mois de convalo. Quoi. Alors, mais autrement, j'ai toujours été là. Même si Macron veut pas, on est là.
Qu'est-ce que tu as fait comme métier, toi?
J'étais chef d'équipe en métallurgie. Et puis ensuite, j'ai été 30 ans chez Renault comme magasinier et responsable syndical. J'ai monté le CHSCT à l'époque. J'ai toujours eu une activité. J'ai fait 68, bien sûr, avec ma femme. J'étais la chercher où elle était. Et puis après, on s'est mariés 2 mois après. Depuis, bah, J'ai malheureusement eu beaucoup de déceptions parce que j'ai perdu un fils en moto. Je suis motard et pourtant j'ai perdu un fils en moto malgré tout. Bon, il m'en reste un, c'est déjà bien. C'est formidable d'ailleurs.
Pour en revenir à aujourd'hui, là, on se parle sous la pluie, début février 2020. Donc Christian, tu portes le gilet jaune et ce depuis le départ. Et les gilets jaunes, certains d'entre eux en tout cas, ils ont fait un chemin politique et intellectuel en un an incroyable. Ça a démarré d'une révolte contre une taxe sur l'essence. Oui. On arrivait au référendum d'initiative citoyenne et machin. Et il y a quand même encore un truc qui bloque, mais moi je le comprends, c'est parce que les gens sont tellement écœurés par les politicards qu'ils font une confusion entre la politique, faire de la politique, oui, et les politicards. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, ils veulent pas entendre le mot politique parce qu'ils entendent politicard. N'empêche qu'il y en a beaucoup qui se braquent quand je leur dis, mais ce que vous faites là, les gilets jaunes, vous faites de la politique. C'est-à-dire que quand le citoyen il descend dans la rue pour réclamer des droits, vous êtes même en train de réinventer la roue de la politique. Ah non, non, les politiques tous pourris. Je dis, mais putain, je vous parle pas de ça. Je vous parle du fait que vous faites de la politique. Je vous dis pas, vous êtes des politicards, ce qui n'a rien à voir.
Oui, non, mais moi je le reconnais tout à fait.
Est-ce que tu as cette discussion là avec les autres? Parce que nous on n'est pas de gauche, on n'est pas de droite. Je dis, non, mais excusez-moi, vous réclamez de la justice fiscale, vous réclamez de la justice sociale.
C'est très large l'éventail.
Oui, mais c'est pas un discours de droite. Justice fiscale, justice sociale, c'est pas un discours de droite.
Non, tout à fait.
Donc voilà, bon, alors j'ai pas envie de dire aux gilets jaunes, vous êtes de gauche.
Parce qu'il y en a d'extrême droite dedans, très peu. Oui, mais on a voulu dire à un moment donné qu'on était tous d'extrême droite. C'est archi faux. J'en suis l'exemple d'ailleurs.
Mais moi qui viens régulièrement depuis plus d'un an, effectivement, je vois quelques individus de ci, de là, mais qui sont absolument pas majoritaires. En tout cas, ici, à Tours, en région centre.
Alors, il y a aussi une chose qui est très importante pour les gilets jaunes. On les a poussés. Bien sûr, les médias surtout, ils ont poussé à ce qu'ils se structurent. Or, nous, on ne voulait pas de ça. Parce que se structurer, ça voulait dire peut-être aboutir à un parti politique, à quelque chose qui aurait été plus ou moins manipulé. Ce n'était pas dans l'esprit des Gilets jaunes. C'est une révolte populaire qui a sa force aussi dans le fait qu'elle n'est pas structurée, qu'elle est libre. On est libre. Moi, il y a des fois, je me suis opposé à certaines choses, je l'ai dit, mais je l'ai dit d'une façon souple. En disant, non, vous voyez les gars, là vous faites une erreur. Par exemple, de bloquer les automobilistes comme ils ont fait à un moment donné, il y a un an, j'aurais dit, c'est contre-productif. J'ai dit, je suis désolé. Moi, je suis un syndicaliste, je vous le dis franchement, je n'ai pas honte de le dire. Et j'ai démarré avec les gilets jaunes très vite. C'est parce que je trouvais que les syndicats ne bougeaient pas et ça me mettait en colère. Et j'étais content de vous trouver à la Madeleine, là, le 17 novembre, il y a un an maintenant, il n'y aura plus d'un an. Et c'est comme ça que je suis devenu gilet jaune, en fin de compte.
Quand t'es gilet jaune, tu fais de la politique?
Oui, oui, tout à fait. Ben oui, je suis contre Macron, je suis contre ce gouvernement-là, je suis contre les deux autres qui ont précédé, etc., etc. C'est clair.
Qu'est-ce que t'as pensé de la propagande des médias dominants concernant les gilets jaunes?
J'étais complètement écœuré. Il m'arrivait d'éteindre la télé. Je pouvais plus écouter, surtout BFM TV et tout ça, ces chaînes-là, c'est une catastrophe. Et c'était une honte parce que quand je vois qu'on faisait des images fixes sur des poubelles qui brûlaient ou une voiture, ce qui est loin d'être bien, attention, hein, je ne suis pas pour ce genre de choses, mais quand on voit jouer les tours à Saint-Pierre ou ailleurs, qu'il y a des voitures qui brûlent, plusieurs voitures dans une nuit, et que là, pour une voiture qui brûlait à Paris par exemple, l'image restait fixe pratiquement dessus, c'est vraiment scandaleux. Et puis quant aux violences policières, elles existent vraiment, parce que moi je sais que moi j'ai pris quelque chose au mois de décembre il y a un an, hein. Ma veste, on en a encore les traces. Hein.
C'est quoi? C'est des traces de quoi ça?
C'est une bombe lacrymo. J'ai simplement été le voir et je lui ai dit d'arrêter d'agir comme ça. C'est lui qui excitait tous les gens. Sa réponse a été dégage, en mettant son arme sur le ventre, son truc qui tirait les grenades, là, le lance-grenade. Et j'ai dit, j'ai pas peur de vous, vous me faites pas peur. Hein. J'en ai vu d'autres que vous, certainement que vous avez pas vu vous. Alors il a baissé son arme et il s'est baissé pour ramasser sa bombe lacrymo. La bombe, elle va laisser pratiquement à la percée. C'est pourtant un vêtement de motard en Gore-Tex. Hein. J'ai des trous par endroits. Hein. J'ai mon fils qui est venu à mon secours. J'ai dit demi-tour stratégique. On a tourné les talons, mais il faut dire que j'avais affaire à un grand gaillard qui faisait une tête de plus que moi. Il a fait 3 enjambées et il a eu le temps de nous arroser dans le dos.
Pas la première fois, excuse-moi, mais il se trouve que il y a quelques samedis de ça, bon, il y avait un simulacre d'essayer de bloquer un peu le tram.
Oui, c'est vrai.
Ce qui d'ailleurs n'emmerde pas les riches, hein, soit dit en passant, bloquer le tram.
C'est le côté regrettable.
Ça n'a pas bloqué grand-chose et que voilà, ça restait très symbolique. Mais le fait est que je t'ai vu te faire bousculer par un policier. Ouais. Tu l'as remis à sa place en lui disant, mais moi j'en ai vu d'autres, monsieur. Du maintien de l'ordre, j'en ai fait avant vous. Je suis ancien combattant.
Moi, j'ai fait du maintien de l'ordre à Alger et à Maison Carrée. Et on n'était absolument pas brutaux avec la population.
Alors attends, là, parce que tu sais, il y a des tas de gens qui ne savent pas que la France a mené des tas de guerres coloniales. Et qu'il y en a une qui, d'ailleurs, à l'époque, ne s'appelait pas la guerre d'Algérie. Hein, je crois qu'on disait les événements, le maintien de l'ordre, des trucs comme ça. Mais de 1954 à 1962, il y a eu une guerre coloniale. La France a envoyé près de jeunes gens.
500 000 à tenir.
On a bousillé la jeunesse de tas de jeunes Français et de leur famille de 1954 à 1962. Mais on n'en parle jamais parce que de 1830 à 1962, l'Algérie, c'était territoire français, c'était trois départements français.
Alger, Oran et Constantine.
Et quand les autochtones, les Arabes, enfin je sais pas comment on dit, on est toujours très embêtés.
Les musulmans,
les
jeunes du pays.
Voilà, dans l'armée, on disait les FSNA, les Français de souche nord-africaine. Enfin bon, voilà. Ces citoyens de seconde zone indigènes se sont révoltés. Bon, il y a eu le Front de Libération Nationale, entre autres, etc. On a envoyé des tas de jeunes gens, comme toi, bah faire quoi?
Moi, j'ai fait une pré-militaire, pas par esprit militariste, disons, pour pouvoir choisir mon arme. J'étais un passionné de moto et d'avion.
Alors, on t'a versé dans quelle arme?
Alors, on m'a versé dans les transmissions coloniales à Maison Carrée. 1er septembre 60.
Il y avait encore 2 ans de guerre à faire, quoi.
Oui, j'ai dû faire 24 à 25 mois, mais j'étais parti pour 27 mois et 27 jours.
Et t'avais quel âge?
Première garde que j'ai montée, je l'ai montée pour la caserne, dans un mirador. Ça donnait sur un cimetière, c'était très agréable. Et j'ai fêté mes 20 ans ce jour-là, j'avais 2 mois d'armée. Je faisais mes classes, quoi.
Donc dans les transmissions, mais en plus, il y avait des gardes à monter,
Alors là, ils raclaient les fonds de tiroir, hein. Même au moment du putsch, par exemple, ils ont armé, en avril 61, ils ont armé tous les bidas, y compris les cuistots et les gars qui étaient à l'entretien. Ils ont armé tout le monde, parce que j'étais armurier, moi, là-bas. Hein. J'étais fort en armement et en piégeage, etc. Disons que j'étais déjà un lascar.
En une phrase, je réexplicite le contexte. En 61, des généraux putschistes de l'armée française, sentant que l'Algérie s'est cuit, hein, on rappelle que De Gaulle est arrivé au pouvoir en faisant croire à ces gens-là que l'Algérie allait rester française. On dit que, comme on dit, hein, De Gaulle a créé la 5ème République dans un putsch en arrivant au pouvoir sur les épaules des parachutistes. Et en 61, les ultras de l'Algérie française sentent qu'ils se sont fait flouer et essayent un putsch à Algérie. Hein, comme dira De Gaulle, un carteron de généraux à la retraite.
C'est long. Oui, voilà. Ben, Zeller, Chouot et Salan.
Toi, tu as 21 ans et en fait, vous apprenez donc qu'il y a un putsch de l'armée française. Et
pour nous, ça voulait dire qu'on allait rester longtemps en Algérie si l'armée de carrière gagnait. Et puis en plus, c'est qu'ils avaient décidé de venir en France. D'ailleurs, tout le monde avait peur à ce moment-là d'envoyer les parachutistes coloniaux et de la Légion étrangère, les bérets verts. Les envoyer avec les Nord 2501 stationnés sur la base de Maison Blanche. Et heureusement, je dois dire qu'il y avait un adjudant-chef de l'armée de l'air, je ne donnerai pas son nom, qui a saboté les Nord 2501 et aidé par des gars du contingent, des jeunes du contingent. Parce qu'évidemment, l'armée de carrière était à 80% pour l'Algérie française. Mais moi, par contre, j'étais contre la guerre d'Algérie parce que je sentais que d'abord, c'était fichu. Je savais qu'on n'avait pas respecté la majorité musulmane du pays. On aurait pu leur donner des choses, on aurait pu lâcher. On a bien fait avec d'autres colonies à ce moment-là, que ce soit en Afrique ou le Maroc était sous protectorat et la Tunisie. Pourquoi on ne l'a pas fait pour l'Algérie?
L'Algérie, c'était une colonie dite de peuplement, oui. Alors que les autres étaient des mandats, des protectorats.
Oui, tout à fait, c'est la différence.
J'en reviens à ce que tu as essayé d'expliquer à ce fonctionnaire représentant des forces de l'ordre, hein, on ne dit plus gardien de la paix maintenant, quand tu lui as dit, mais moi monsieur, le maintien de l'ordre, je sais ce que c'est, sous-entendu, j'en faisais déjà, là, vous étiez même pas né.
Oui.
Alors, tu fais faire ça, toi.
Oui, oui, tout à fait. Et je dois dire que j'ai vraiment agi d'une façon très humaine. Au départ, j'avais besoin de leçons. Je suis arrivé là-bas, on m'a donné un fusil, je me sentais très fort. Et je suis quelqu'un qui n'a jamais eu peur de sa vie. Et je suis comme ça, c'est pour ça que je suis de toutes les situations. Vous voyez, j'ai fait 68, j'ai fait... Et j'ai horreur de l'injustice, j'ai horreur de toutes ces sociétés qui sont précédées, elles ne valent pas plus cher les unes que les autres. Et je n'ai jamais eu d'appartenance politique.
On militait à la CGT, c'est quand même de gauche, non?
Ah oui, c'est de gauche.
Bah oui.
Ah mais je ne dis pas que je ne suis pas de gauche.
Quand en Algérie, on te demande de faire du maintien de l'ordre, c'est quoi? C'est être à un carrefour avec un fusil?
Très peu, ça, pour moi. Non, j'étais beaucoup en mouvement. C'était aller garder jusqu'au bordel, d'ailleurs, qui était menacé. Les stations-service en ville, qui explosaient.
fait, Christian, tu me disais, finalement, cette guerre d'Algérie, machin, bah, y a ta vie d'homme qui est passée dessus, le temps a passé aussi. Et c'est finalement les récents événements sociaux, enfin la violence, notamment de la Macronie et tout ça, ça t'a fait comme une remontée d'adrénaline, mais qui te rappelle cette époque de ton service militaire.
Oui, parce que moi, j'étais dans des secteurs-villes et j'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre, des fois même avec les gardes mobiles. Hein. J'ai jamais trouvé, malgré la violence de cette guerre par rapport à la population, j'ai jamais trouvé la violence que l'on trouve actuellement.
Dans la France de 2020.
Oui, tout à fait. Et c'est ça ce qui me met hors de moi. Et c'est pour ça que j'étais obligé de leur dire à ces messieurs de la police. Parce que ça me met hors de moi. Jamais j'ai eu un comportement comme ça, j'aurais eu honte. Moi, je n'ai pas à avoir honte de moi. Bien sûr, je suis gêné par cette guerre que j'aurais préféré pas faire. Mais j'ai pas honte parce que j'ai pas fait de saloperie. J'ai aidé des gens au maximum. Il y a une autre histoire avec un étudiant, mais au mois de décembre 1960, après le couvre-feu, on avait investi tout un quartier musulman. Et tous les suspects, on les mettait dans les camions au fur et à mesure. Et les gars qui étaient là pour garder les camions, bah, ils trouvaient que nous, c'était bien plus amusant ce qu'on faisait en étant actifs. Alors ils nous avaient rejoints, il n'y avait plus personne qui gardait les camions. Et les gens qui étaient dedans, une quinzaine dans un camion, ils ne bougeaient pas. Je remonte dans cette rue, il y avait les camions, mais je dis, il n'y a pas de garde, bizarre. D'un seul coup, je les vois tous descendre. Oh, je dis, zut, qu'est-ce que je fais avec mon pistolet mitrailleur? J'avais une Mat 49, quand même pas leur tirer dessus. Alors, je dis, je vais sauter, puis leur dire de remonter dans le camion. Je savais pas quoi faire. Ils sont tous mis à uriner sur les roues des voitures. Ils se marraient, bien sûr, parce que c'était les voitures des Européens. Et eux, c'était les musulmans. Et puis, gentiment, ils sont tous remontés en file indienne dans le camion. J'étais ahuri, ahuri. Ce même soir-là, dans le même camion, il y avait quelques habitants d'origine européenne qui se trouvaient dans le quartier musulman au début. Et tout le monde n'avait pas de l'argent pour être où ils voulaient être. Hein. Ils ont tapé dans une porte à coups de mousqueton, la femme a ouvert, ils l'ont bousculé. Et d'un seul coup, il y a un jeune homme qui est descendu d'un escalier qui venait de sa chambre, qui était en pyjama. Il a pris un garde mobile par le cou, il a voulu l'étrangler, hein, parce qu'on avait touché à sa mère. Moi, j'étais en protection. Il prend, puis il dit « embarquez-le ». Et en fin de compte, je ne sais pas comment il s'est démerdé, il s'est retrouvé en slip, pieds nus. Ils l'ont embarqué, ils l'ont mis dans le camion où il y avait des musulmans. C'était un Européen. En passant, sa mère m'a appelé à l'ouvrir la porte, à la refermer, elle avait peur. Elle me dit « Monsieur, voulez-vous donner les chaussons à mon fils ?» J'étais lui porter les chaussons, puis là, je suis tombé sur mon chef de section. Il me dit « De quoi tu te mêles ?» J'ai dit « Ben, je fais que mon devoir d'homme, c'est tout. C'est honteux ce que l'on fait là. On ne demande pas ton avis, tu retournes avec les autres. » Tout de suite, mon adjudant-chef ou mon adjudant, je ne me rappelle plus. Et j'étais porté d'abord les pantoufles et j'ai rejoint mes camarades après. C'est comme ça, j'en ai plein. Parce que j'ai jamais été comme eux, là, les bleus, là, qui exécutent des ordres à la lettre, alors qu'ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Parce qu'ils sont là pour protéger la population, ils sont pas là pour y taper dessus.
Vous avez vu, hein, il est remonté comme un coucou, Christian. Au moment où on se parle, on est donc en 2020, Christian a 80 piges, et la violence de l'actuelle répression des mouvements sociaux lui fait remonter de l'adrénaline d'une guerre d'Algérie où Christian, comme tant d'autres, a gâché sa jeunesse. Des traumatismes qu'il pensait avoir plus ou moins enterrés, mais qui remontent aujourd'hui. Parole extraordinaire, car en général, ceux qui ont fait l'Algérie n'en parlent pas. Beaucoup n'en parleront plus, car ils ne sont plus là. Christian, lui, est bien là. Même si Macron ne le veut pas, il est là avec ses souvenirs.
Première année, de 60 à 61, je me suis battu beaucoup contre le FLN. De 61 à 62, j'ai eu affaire à l'OAS. J'ai même été condamné à mort, la Maison Carrée, par l'OAS.
L'organisation armée secrète, ça c'était les pieds noirs ultra qui ne voulaient pas quitter l'Algérie.
Armée secrète, OAS.
Première étape, tu dis combattu le FLN, et ça veut dire quoi? Faire du crapahut, monter dans des hélicoptères bananes et...
Ah non, ça n'a pas été du tout ça mon truc, non. C'était des gares statiques, on occupait les fermes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de sabotage, les pieds de vigne coupés ou alors les orangers.
On vous a fait protéger les exploitations des gros pieds noirs, parce qu'il y en avait quand même une poignée qui était très riche. Il paraît qu'ils étaient très contents que les troufions français viennent garder leurs immenses plantations, mais qu'ils avaient du mépris pour vous.
Une auge à cochon, enfin, qui servait pour les bêtes. L'eau était propre, hein, elle avait été changée, heureusement. Mais on se lavait le matin là-dedans et on était venu nous reprocher de gaspiller de l'eau. On n'avait pas le droit de prendre une orange dans l'orangerie, on nous en donnait pas. C'était vraiment pas sympa. Donc, j'ai fait davantage de maintien de l'ordre de jour et de nuit, avec les gardes mobiles, par exemple. Il y avait des quartiers musulmans entiers que l'on fouillait. Avant, il y avait eu des numérotations à la craie pour signaler combien d'habitants il devait y avoir. On rentrait dans une maison, c'était des petites maisons. On aborde la ville, à la limite du quartier musulman et européen. S'il y avait une personne de trop dans la maison, on nous la faisait embarquer, systématiquement. On demandait qui ? N'importe lequel, on s'en foutait le premier, là. Alors ça, j'appréciais pas trop.
C'est presque terrible, enfin, de rentrer chez des gens avec une arme.
Les gardes mobiles cassaient les serrures à coups de mousqueton avec leurs crosses, parce que ça répondait pas assez vite ou parce qu'il y avait simplement personne. Il y avait des petits commerces en bordure de rue avec leurs rideaux ondulés, là, en tôle. La porte de service était fracturée. Et ils se retiraient en tirant la porte et en mettant la serrure comme ça, qui tenait à peine. Alors nous, on n'appréciait pas ce genre de truc. Par contre, les gardes mobiles étaient vraiment corrects avec nous. C'était les petits gars, tout ça. Enfin, c'est eux qui faisaient l'action de police, mais nous, on était en couverture en tant que militaires. Il y a même eu une intervention que j'ai faite. Donc, on était deux bidas et deux gardes mobiles dans une Jeep. On a été dans une petite maison à la sortie de la ville pour interroger une famille qui était apparemment de notre côté. Et deux jours après, j'ai appris qu'ils avaient tous été égorgés, enfants compris. Aux abords de maisons carrées, parce que comme j'ai fait pas mal de petites opérations, mais plutôt cantonnées à la ville ou les faubourgs de la ville. On a fait du ratissage en pleine nature, mais j'en ai fait 3 ou 4, ça n'a pas été mon action principale. J'ai beaucoup eu affaire, en fin de compte, c'est à l'OAS. Le gars qui avait été pris dans une ferme après s'exercer au tir, il avait été pris par les barbouzes de De Gaulle.
Donc le service d'action civique, le SAC, c'est des barbouzes, des mafieux, enfin bon, c'est une raya épouvantable qui est envoyée par le pouvoir gaulliste pour combattre en fait en sous-main les gens de l'OAS, de l'organisation armée secrète.
Et puis contrôler l'armée de carrière, qui n'était pas sûr du tout. D'ailleurs, ils l'ont prouvé en faisant le putsch.
Alors comment se fait-il qu'un troufion de 21-22 ans se retrouve condamné par l'organisation armée secrète ?
C'est tout simple, c'est qu'au moment du putsch, j'étais donc armurier. On nous réclamait les armes en nous menaçant à l'extérieur de l'armurerie. Bien sûr, on s'était barricadé. On avait mis les A-52, des fusils mitrailleurs, en batterie sur les tables de nettoyage et on s'apprêtait à tirer à travers les murs qui étaient en briques creuses. Fallait pas rater notre coup parce que les fenêtres avaient des volets blindés. Fallait pas tirer dans les fenêtres. Mais dans les murs, à hauteur d'homme, on pouvait. Donc, on avait refusé de donner les armes parce que on savait que dans les chambres, il y avait des menaces par des éléments de l'OS, des fils des gens qui faisaient partie de l'OS en ville. Hein. Comme on a refusé de donner les armes, après le putsch, ça s'est réglé comme ça. Il y a un gars qui a déserté. Quand ils l'ont arrêté dans une ferme où il s'exerçait donc au tir, ils ont trouvé un papier sur lui avec le nom du capitaine, qui était pourtant pour eux, le nom d'un sergent, moi en troisième position, et puis deux autres noms derrière, l'autre armurier et un aide armurier qui venait d'arriver. On se demande, le pauvre malheureux, s'il avait mérité ça. Hein. Ou alors, il avait une note avec le plan précis de l'armurerie, et en dessous, il y avait nos noms, et il y avait à liquider. Voilà comment j'étais condamné à mort. Mais ça m'a pas ému plus que ça. Par contre, mon capitaine, il a pratiquement chialé, il a posé son calot sur la banque de nettoyage des armes, et il s'est assis, et il a dit, c'est pas possible, j'étais pour eux. Mais on ne l'a pas vu, notre capitaine, le temps de... Il est resté à l'écart, on ne sait pas ce qu'il a fait. Hein. Mais il ne nous a pas intimé l'ordre de donner les armes. De toute façon, s'il l'avait fait, j'aurais désobéi, c'est clair. Moi, sur mon livret militaire, on a eu les clés après des bureaux. Les fils de pieds noirs, qui avaient 20 ans comme nous, qui faisaient leur service, étaient employés de bureau. Quand le capitaine était parti, il se servait de son tampon, il imitait sa signature pour faire des fausses permes. Et ils allaient signaler aux membres de l'OAS en ville qui posaient des bombes où allait se trouver la troupe. Nos sections de maintien de l'ordre où ils allaient être en faction. Donc le capitaine nous avait donné les clés. On a été voir dans son bureau, on a regardé, on a trouvé nos livrets militaires. Il y avait une note qui était pliée dedans. Il y avait « bon soldat, mais toujours s'assurer qu'il a accepté l'ordre reçu ». Ça, c'était moi. Et j'en suis fier. Mais j'en aurais comme ça à lui raconter. Les barbouzes, par exemple, j'ai connu ça aussi.
Barbouzes.
Oui, les barbouzes à De Gaulle.
Donc les gens du SAC, oui, du service d'action civique.
Tout à fait. Alors on avait un commandant d'armement, vrai gaulliste, hein, un pur et dur. Il y avait un ancien légionnaire, un légionnaire déserteur d'origine allemande qui est venu pour le zigouiller à la caserne. Il l'a demandé. Et puis l'autre, il se méfiait de quelque chose. Commandant Durand, on était là pour le protéger. On nous avait donné la consigne de faire attention. Et effectivement, le gars était venu pour le tuer. Mais comme il y a eu un doute, tout le monde s'est précipité sur lui. Ils l'ont désarmé et il venait pour flinguer le commandant. Voilà. Et le commandant en question, il ronflait la nuit. Alors à travers notre petite paroi, nous, on l'entendait. Alors j'avais acheté un magnétophone à l'époque pour enregistrer des souvenirs et tout ça de là-bas. On avait collé le micro contre la paroi. On enregistrait les ronflements du commandant. On les agrémentait par quelques petits bruits pas très flatteurs, n'est-ce pas ? Après, on sortait le magnétophone et on faisait payer une bière à tous ceux qui voulaient entendre le fameux commandant ronfler. et pété en plus. Tout le monde riait, puis d'un seul coup, oh non, c'est pas vrai, ils ont pas fait ça, ils ont pas fait ça. C'était notre capitaine.
On t'a demandé de tirer sur des gens?
Tirer, non, quand j'ai tiré, on m'a rien demandé, je me suis défendu. Donc je sais pas si j'ai fait des victimes, je ne pense pas. Et j'en suis heureux d'ailleurs. Mais j'en sais rien, je ne peux pas en être sûr. Mais par contre, il m'est arrivé une anecdote aussi qui était assez cruelle, celle-là, et qui m'a servi de leçon. J'avais 7 ou 8 mois d'armée, il n'y a pas longtemps que j'étais armurier. J'accompagnais en tant que chef de bord. J'étais monté avec Boukacha, hein, d'origine marocaine, qui était raciste comme pas un, qui ne voulait pas voir les Algériens, entre parenthèses. Et on emmenait 6 hommes gardés, je ne me rappelle pas quoi, je crois que c'était un bordel. L'Embassy ou le Sphinx, je ne sais pas, à Maison Carrée. Et on arrive dans une petite rue, et il commence à vouloir bousculer une petite charrette avec son petit bourricot, avec les cajots d'orange derrière. Je lui dis, Boukacha, arrête tes conneries là. Ce gars-là, il gagne sa vie péniblement, puis tu vas l'emmerder. D'un seul coup, j'entends crier, je vois un musulman qui déboule, assez jeune, qui déboule à toute vitesse, et derrière, 10 à 20 personnes, avec des bâtons qui hurlaient. Et moi, tout de suite, ce que j'ai cru dans un tel climat d'insécurité, c'est qu'il dit y avoir eu un attentat. Alors, je saute du GMC, je dégaine le PA, qui est attaché à une chaîne, d'ailleurs pas facile pour courir avec, et puis je cours après lui, et je le vise dans le dos pour le stopper, parce que pour moi, c'était un type qui avait fait une saloperie, hein, poser une bombe, égorger des gens, je ne savais pas, hein, un terroriste, entre guillemets. Donc, un résistant, on pourrait dire, si on était de leur côté. J'ai hésité à tirer. Il tourne au coin de la rue, il tombe en plein dans les bras d'une patrouille qui arrivait au coin de la rue elle aussi. D'un seul coup, la meute hurlante derrière s'amène, on est obligé de le protéger. On a reçu une nuée de coups de bâton qui tapaient sur les casques et sur les épaules, et on a réussi à les calmer. J'ai demandé à un des assaillants ce qui se passait et qu'est-ce qu'il avait fait. Et il y en a un, il s'est contenté de fouiller dans ses poches, il a ressorti des gousses d'ail, il avait volé sur le marché. Et j'ai manqué de tuer quelqu'un pour ça. Eh bien, l'émotion. Ça m'a servi de leçon, ça m'a changé du tout au tout. J'étais plus le petit con, le petit cow-boy qui réfléchissait pas tellement en fin de compte. J'avais que 20 ans, quoi.
Mais quand on vous a envoyé là-bas, on vous a rien expliqué du tout. Convoqué à la caserne avec votre convocation militaire, boum, dans un train, traverser la Méditerranée, bing, Alger, puis après on vous a... Mais est-ce qu'on vous a dit où vous étiez, ce que vous affrontiez, qui étaient les gens qui habitaient ce pays où...
Une fois arrivé là-bas, on nous a fait un court-métrage en nous montrant les indigènes, les femmes et les hommes du bled, avec leur tenue, le foulard, enfin, comme nos grands-mères, pas nos mères, mais tout du moins nos grands-mères étaient en France, hein, avec le foulard, le fichu, quoi, qu'on appelait ça un fichu. Alors on nous a expliqué que beaucoup de ces gens-là étaient pour la France, qu'il fallait les protéger, et qu'il y avait des criminels qui essayaient de, bon, etc., etc., quoi.
Tu t'y as cru?
Ah non, surtout pas. Surtout pas. Bon, j'ai bien vu que c'était de la propagande, hein, qu'on nous bourrait le mou, mais bon...
On nous appelle les forces de l'ordre parce que nous luttons contre des assassins, des pillards, des voleurs. Une bande de fanatiques qui cherchent à affirmer son pouvoir par la force. La force la plus brutale, la plus féroce. Je n'aime pas faire des tirades. Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner. Ou plutôt, à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir.
Et les félagas, ils existent ceux-là?
Eh oui, bien sûr. Et voilà leur travail, détruire et tuer, faire revenir le pays à ce qu'il était il y a 150 ans, au pire Moyen-Âge, et là-dessus instaurer leur dictature.
Parmi tes congénères, ça, c'est un discours qui prenait ou il y avait des gens qui n'étaient pas dupes non plus?
Alors, il y a très peu de jeunes du contingent au moment où ils étaient là-bas. Hein. Après, non, ils ont réfléchi, heureusement. Mais qui ont compris ce qu'ils faisaient là-bas et qui ont analysé les choses, disons, clairement, comme ça aurait dû l'être. Il y en a très peu. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'ennuis dès le début. J'ai fait une sorte de résistance passive, puisque j'ai voulu déserter, puisque j'ai voulu tuer un sergent-chef. J'ai voulu tuer un sous-lieutenant après, qui s'en allait à Reagan, au Sahara. Et je lui ai dit, avant de partir, j'ai dit, mon lieutenant, je vais vous dire que vous l'avez échappé belle, parce qu'on avait des comptes à régler. Et je dois dire, à l'époque, je lui aurais tiré dans le dos, ce qui aurait été absolument horrible. Je pense que je ne me le serais pas. Je ne me le serais pas pardonné. Mais beaucoup de mes camarades n'avaient pas cette analyse. Mais je dis bien quand ils avaient 20 ans. Peut-être qu'à 22 ans, quand ils sont partis, quand ils sont revenus en France, qu'ils avaient mûri. Hein. Ça, c'est fort possible.
On parlait de ça l'autre fois et tu me disais j'ai été à deux doigts de déserter avec armes et bagages.
J'étais une tête de lard et si j'ai pas déserté, c'est d'abord parce que je pensais que ma mère était seule et malade. J'allais être comme un traître. J'ai surtout eu peur que mes camarades, en me faisant la chasse, je suis obligé de tirer sur eux. Plus grave, c'est que j'aille du côté de l'OAS, il y avait des atrocités de commises. Que j'aille du côté du FLN, il y avait aussi des atrocités de commises. Et je me sentais à l'aise, ni d'un côté ni de l'autre. Or, j'aurais été sur le territoire national, j'aurais pu me réfugier quelque part. Mais là-bas, on se sentait perdu, on n'était pas chez nous, on se sentait complètement paumé. Donc, je n'ai pas déserté.
Pourquoi t'aurais fait ça?
Parce qu'on était maltraités. On avait des sous-officiers, principalement des sous-officiers qui venaient d'Indochine, qui étaient de très bons soldats, attention. Hein. On préférait avoir un chef de section, adjudant ou adjudant-chef venant d'Indochine, qu'un jeune sous-lieutenant sortant des écoles, hein, qui avait notre âge pratiquement, ou 23-24 ans. Parce que eux, c'était des vrais militaires. Ils savaient nous placer aux bons endroits. Mais alors, par contre, l'ennui, c'est qu'il y en a qui étaient ivres du matin au soir. Ils nous bottaient les fesses, si on n'allait pas assez vite, ils nous insultaient. Moi, j'ai manqué de tuer mon sergent-chef, qui était un Corse d'ailleurs. J'ai manqué de le tuer d'un coup de crosse parce qu'on montait un genre de carrière. Il fallait le monter en temps de seconde, alors avec Barda, et bien sûr, hein, complet. Malheureusement, la section n'arrivait jamais entière en haut. Il y en a un qui déboulait, qui faisait retomber les autres. Moi, ça m'arrivait, il y en a un qui m'entraînait dans sa chute. Arrivé au sol, le sergent-chef m'a pris par le col de ma veste et il a essayé de m'effiche un coup de pied derrière. Alors, je me suis redressé, j'ai retrouvé mon fusil à côté de moi, je l'ai pris. Il était s'occuper d'un autre pour lui faire le même traitement que moi. Et moi, avec mon fusil à la main, je l'ai pris par le canon. J'ai manqué de lui asséner un coup derrière la tête. Et ces deux autres copains de ma section qui m'ont ceinturé, fais pas ça, fais pas ça. Il s'est retourné, il m'a vu. J'ai eu aucune sanction, il m'en a jamais parlé. Mais il a compris que ce jour-là, je le tuais.
T'es pas le premier que j'entends dire qu'on était tellement maltraités par notre hiérarchie. Des gars comme toi qui ont dit j'ai eu envie de balancer la grenade dans le dos de mon chef, j'ai envie de lui mettre une rafale.
Un sous-lieutenant, j'ai voulu tuer, effectivement.
C'était assez répandu.
Surtout au moment des classes et des spécialités, c'est-à-dire on avait 6 mois à endurer, 2 mois plus 4 mois. Puis alors nous, on était d'un régiment disciplinaire. Il paraît qu'en 1946, à Alger, nos prédécesseurs avaient défilé la crosse en l'air. Je n'ai jamais su les motifs. Mais on avait les 3 liserés des bataillons disciplinaires, alors qu'on ne l'avait absolument pas mérité. Hein. On arrivait de France, on se demandait pourquoi. D'ailleurs, je me demandais pourquoi j'ai été muté là-bas.
Tu faisais déjà à la CGT, non? À 20 piges?
Oui, mais j'avais...
Bah voilà.
Oui, tout à fait, mais j'avais pas de responsabilité. J'étais surtout contre l'injustice, comme je suis toujours.
Oui, bah ça suffit hein, pour se retrouver dans un bataillon disciplinaire.
Par exemple, une anecdote, 5 francs qui avaient été dérobés dans une chambre. À cause de ça, on a mis 30 à 40 gars au garde-à-vous en plein soleil à 3h de l'après-midi. On est resté 2h au garde-à-vous. On a eu 2 gars qui sont tombés dans les pommes, en calot, hein, rien, pratiquement rien sur la tête. 2 gars sont tombés dans les pommes et le 3e, il l'a fait exprès, lui, pour qu'on l'emmène à l'infirmerie puis qu'il crache le morceau. Et là-bas, il est tombé sur le commandant médecin qui est venu. Il a mis le sous-lieutenant aux arrêts de rigueur et il nous a fait partir dans nos chambres jusqu'au soir. Il n'y en avait qu'avec rié, hein. Moi qui suis, comme toi d'ailleurs, assez bronzé, eh bien, je veux dire qu'on résistait au soleil, mais il y en a des pauvres gars, ceux qui venaient de Schnorr là-bas, ils ont dérouillé les pauvres. Hein. Les coups de soleil sur le nez, les joues, le front et tout, ils n'étaient pas beaux.
Cette guerre d'Algérie, donc 1954-1962, elle n'est officiellement devenue une guerre qu'en 1999. Le Parlement français a voté une loi. Quand vous y étiez, vous saviez que vous faisiez une guerre, puisque vous faisiez la guerre.
Oui, c'était une drôle de guerre, et pour nous, c'était une guerre coloniale. On voulait garder un pays par la force. Je me rappelle quand le général de Gaulle parlait, après avoir décrété que ça ne sera plus l'Algérie française, mais l'Algérie algérienne, il y avait un soldat, 30 ou 40 kilomètres en dehors d'Alger, à chaque poteau de ligne, pour pas qu'on fiche en l'air les lignes qui amenaient l'électricité en ville, pour que les télés soient pas éteintes, pour qu'on puisse entendre le discours de De Gaulle. C'est-à-dire que ce pays-là, on pouvait pas le maintenir. Il fallait mettre un bidas à tous les coins de rue.
Et encore, il se faisait égorger.
Égorger, pas trop, mais tirer dessus, oui. J'ai un camarade, il a fait partie des parachutistes de Bayonne, les Bérets Rouges, appelé, hein, lui aussi. Hein. Son colonel avait décidé de rejoindre les factieux à Alger. Et en cours de route, ben, il y avait moi avec tous mes petits camarades et les gardes mobiles. On barrait la route qui remontait vers Alger. On savait qu'il y avait un convoi de parachutistes qui menait avec les GMC. J'ai vu le fameux colonel qui jouait les gros bras et qui a dit au commandant des gardes mobiles qu'il fallait qu'il leur laisser le passage, que ces gars-là, ils étaient aguerris et qu'on ne pèserait pas lourd. Le commandant leur a répondu, « Mon colonel, ici j'ai des petits gars qui font leur service, là, presque des bleus, mais ils sont pas pourris pour ça, ils sont décidés de se battre. Et pour bloquer la route, on avait un AFTRAC avec une mitrailleuse de 50 qui bloquait avec des gardes mobiles qui étaient dedans. Hein. Le colonel a fait faire demi-tour à ces gars, voyant qu'on était décidé à barrer la route, et j'ai su que mon camarade... Excusez-moi. J'ai su que mon camarade, un jour, on était après déjeuner ensemble, on était pique-niquer, il m'a dit ce qu'il avait fait pendant le putsch, 4-5 ans après, hein. Et il m'a dit comment il avait été stoppé en arrivant sur Alger. Et je me suis aperçu qu'on était face à face, sans le savoir. On l'a su plusieurs années après.
Vous auriez pu vous tirer dessus avec ton copain?
Tout à fait, tout à fait. Et lui, il n'a pas eu de chance parce qu'ils ont fait demi-tour, ils sont retournés à leur casernement et il était envoyé à la frontière algéro-tunisienne pour assurer la fameuse ligne...
La ligne Chal, non?
Je ne me souviens pas du nom. Malheureusement pour lui, au bout de quelques temps, il a sauté sur un obus piégé. Plusieurs morts, y compris son sergent-chef d'ailleurs. Il est resté avec des éclats sur lui. Il vit avec très bien. Hein. Ça doit être le sergent-chef, je crois, qui s'est mis les pieds dans le fil qui piégeait. C'est quand même une drôle d'histoire de se trouver face à face comme ça et que ça se termine. Mais moi, j'ai été très actif parce que, par exemple, un jour, je vais voir un camarade. Il était au service du matériel, des émetteurs-récepteurs. Et il avait un adjudant-chef qui était brave, d'ailleurs, qui était après décroché le portrait de De Gaulle en tant que président de la République. Parce qu'il a dit, j'en ai marre, depuis que j'ai ça, il dit, je le vire. Alors moi, qui n'étais pas pour De Gaulle du tout, j'ai demandé si je pouvais récupérer le portrait. Et puis, je l'ai mis à l'armurerie. Histoire de rigoler, quoi. Je voulais que ça fiche le bordel où j'étais, moi. Oui, mais ça, j'étais un petit con de 20 ans, quoi. Il n'y a pas de mystère. Hein. Alors, c'est pas que j'ai tellement changé, d'ailleurs. Je suis un peu moins con, mais... Bon, bref. Donc, le capitaine est venu le soir pour voir si tout allait bien. Ça va, les petits gars, les armes, c'est OK, tout ça. Oui, mon capitaine, pas de problème. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Ah, vous m'enlevez ça? Ah, j'ai dit non, mon capitaine. C'est le président de la République, hein. Je vous le signale. Il dit non, 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 il n'est pas question que je l'enlève. Je vous ordonne d'enlever. Alors, j'ai pas répondu. Il est parti en colère, comme il savait que j'exécutais pas toujours les ordres. S'il disait bien mon capitaine, oui mon capitaine, ou à vos ordres, il savait que ça allait être exécuté, j'aurais laissé ma peau. Mais par contre, si je commençais à discuter, d'ailleurs c'est ce qu'il me disait, ah, commencez pas à discuter. Hein. C'était la réponse. On a tenu 2 ou 3 jours comme ça, puis à la fin, il a fallu l'enlever quand même.
Il en a gros sur la patate, Christian, tant pour hier que pour aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte, ce que Christian vous dit ici est exceptionnel et historique, car la guerre d'Algérie est encore aujourd'hui un honteux tabou national. Ceux qui osent en parler sont rares, et ce que vous entendez là, c'est de l'histoire de France telle qu'on vous ne la racontera pas ailleurs.
J'ai envie de le raconter, d'ailleurs je suis poussé par mon fils pour en parler, parce qu'il a dit, quand vous allez être disparu, eh ben, ça va être tombé dans les oubliettes, ça l'est déjà maintenant d'ailleurs. Hein. Quand on parle de 19 mars 62, cessez le feu. L'année dernière, c'était aux abonnés absents, on n'en a pas parlé du tout dans les journaux, à la radio, etc. Ou alors, si peu que moi, j'ai jamais vu une ligne. Hein. Et ça, je trouve ça scandaleux, après ce qu'on a vécu, que la France allait honte de ces petits gars qu'elle a envoyés là-bas, c'est absolument dégueulasse.
Tu crois pas qu'il y a beaucoup de ces petits gars, des innocents, à qui on a fait commettre des crimes, qui sont rentrés avec ça sur la conscience? Enfin, je veux dire, il y en a un paquet qui sont rentrés déglingués de l'Algérie quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Soit peut-être que tu as eu la chance qu'on ne demande pas de faire des saloperies.
De toute façon, j'ai refusé certains ordres, pas directement, parce que j'avais pas les moyens de m'opposer à un officier, mais je ne lui répondais pas et j'exécutais pas les ordres.
Quoi comme ordre?
Par exemple, vous arrêtez cet individu ou n'importe quoi, j'allais vers lui, mais en réalité, il dit « Décampe, hein, tire-toi vite ». Mais moi, j'ai pris des gens pendant le couvre-feu, 3 fois, ça m'arrivait. « Je vais chercher le médecin, ma femme est malade, mon fils est malade ». J'ai dit « Oui, toute la famille est malade, fous-toi pas de ma gueule ». Je te jure, moustache, parce que j'avais des bacchantes à ce moment-là. Alors j'ai dit « Arrête tes conneries, tire-toi ». Non, pas par là, bon Dieu, il y a les copains par là, tire-toi de l'autre côté, là. Et j'en ai fait partir 2 de nuit pendant le couvre-feu, comme ça. Hein. Parce que je savais qu'en les ramenant à la caserne, ils allaient aller dans un service qu'on appelait le sous-secteur. C'était un bâtiment qui, en plein dans la caserne, était isolé des autres bâtiments. Il y avait les gardes mobiles qui opéraient. Il est passé à la question.
La question, donc, la torture. Hein.
Tout à fait. Alors, j'étais longtemps à l'ignorer. Mais un jour, comme j'étais armurier, il y a un gars, il était bouché, un balabar. Il allait se faire les points contre les suspects. Un appelé, hein. Il me dit, non, la Touraine, tu peux pas me filer des cartouches du 9 mm parce que ça va dans nos mosaires allemands. qu'on a pour faire ce genre d'opération. C'était pas les pistolets de l'armée, attention. Hein. Il m'a dit, tiens, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Et on arrive dans le sous-secteur, où il est salué amicalement par les gardes mobiles qui étaient là. Il dit, tu vois, là, on met une chaise là, devant la cheminée, on enlève le parapet. Et les briques étaient complètement éclatées par tous les impacts qu'elles avaient eus. Il tirait au plus près des oreilles du gars qui était à la question, qui était donc assis ligoté sur la chaise. Et les balles allaient se perdre dans la cheminée. Après, ni vu ni connu, on mettait la protection de la cheminée. Ça cachait la misère. Et quand j'étais bleu, j'ai vu un jour une Jeep avec une toile de tente. C'était deux carrés triangulaires qu'on avait, qui recouvraient ce qui semblait un corps, mais il y avait surtout les deux pieds qui dépassaient. Et les deux gardes mobiles, le chauffeur et le chef de bord, n'avaient pas fait attention à ça. Et moi, j'étais de garde. J'avais deux mois d'armée à tout casser. Alors, je les ai arrêtés, puis j'ai refusé de lever la barrière. Ils sortaient de la caserne. Le sergent, le chef de poste, est arrivé, il m'a dit « Tu les laisses passer ?» Mais j'ai dit « Mais sergent, regardez derrière, ça te regarde pas, laisse-les passer !» J'ai levé la barrière, mais j'étais interloqué, j'étais vraiment paumé là, paumé, et ils sont partis comme ça. Et j'ai fait le rapprochement là après, donc au bout de plusieurs mois d'armée, quand j'ai été témoin ce genre de choses, j'ai fait le rapprochement avec ça. J'ai dit « Voilà le pauvre gars d'où il naît !»
Tu rentres en...
J'ai fait 24 à 25 mois en Algérie et j'ai fait deux mois après en permission libérable. Alors on a manqué de sauter aussi avec le bateau qui emmenait nos armes et tout ça quand on est revenu.
Ouais. Tu viens quand en 62, non du coup?
Je reviens en 62, je reviens.
Donc t'as assisté à la déclaration de l'indépendance sur place et
oui,
tout
oui,
ça.
Tout à fait, sacré souvenir. J'ai manqué de tirer sur un gars du FLN qui mettait un drapeau FLN sur le château d'eau, la maison carrée qui desservait la caserne et qui desservait tout un quartier. Parce qu'on l'avait défendu tout le temps qu'on était là-bas pour pas qu'il saute. Là, tous les accords étaient signés. Je parle du FLN, hein, il avait une certaine liberté de mouvement, ce qui était normal. Hein. Il allait prendre notre suite. Et en voyant le drapeau FLN qu'il était après mettre en haut, j'ai arraché l'arme des mains d'un gars qui était à côté de moi et je l'ai pointé et j'ai hésité à tirer. Mais heureusement...
Tu as fait ça par réflexe, non ?
Oui, de colère d'avoir gardé ça puis de voir le drapeau FLN qui flottait. Alors que j'avais rien vraiment contre le FLN sur le front.
Oui.
Encore un geste idiot.
Non, mais tu étais excédé par des mois de guerre.
Oui, tout à fait.
Surtout que vous êtes passé les troufions par un drôle de truc. On sent que l'Algérie française, c'est mort. Et il y a un moment aussi où on demande à l'armée de ne plus bouger, de rester dans ses casernes et de ne pas aider... Enfin, quelqu'un m'a raconté en larmes un jour qu'il a empêché des pieds noirs qui essayaient de se réfugier dans une caserne de l'armée française et qu'il avait interdiction d'ouvrir les portes. T'as vu ça aussi,
toi ? Ça m'étonne pas. Alors moi, j'ai vu un tout petit peu en un côté. Il y avait l'infanterie coloniale qui était cantonnée chez nous. Et le soir, ces chameaux-là, ils arrivent à sortir et ils allaient foutre le bordel dans le quartier musulman. Donc, ce qu'on a appelé les forces locales à l'époque, c'était des Algériens encadrés par des sous-officiers français qui servaient d'intermédiaire entre le départ de l'armée française et l'arrivée du FLN. Ces gens-là, c'est pas pour ça qu'ils ont été bien jugés par le FLN après. Hein. Et ils avaient monté une embuscade pour pêcher ces gars-là qui fichaient le bordel en bas, dans la casse-bas de Maison Carrée. Ils s'apprêtaient à leur tirer dessus au retour, ce qui s'est passé. Et moi, ce soir-là, j'étais de garde, il était minuit moins le quart, j'avais plus qu'un quart d'heure à faire. Je suis pas content d'être de garde, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai dit, une mouche qui passe, elle est morte. Je tire dedans. Puis manque de bol. Quand ça rafalait en bas, je me suis mis en position, j'ai armé le... J'attendais qu'il y ait une voiture qui passe, une voiture qui rafalait en bas. Et je l'attendais au passage, j'étais prêt à l'allumer. Et moi, j'étais en pleine lumière. Les réverbères m'éclairaient bien. Lui, par contre, était dans l'ombre. Il m'a tiré dessus au pistolet automatique. J'étais à deux jours de revenir. Hein. Et j'ai allumé. Au hasard, parce qu'à cette heure-là, avec la lumière dans les yeux, je pouvais rien voir. Hein. Les gars n'ont pas voulu sortir parce que d'abord ils me croyaient mort. Puis moi je criais, allez-vous sortir bande de cons, dépêchez-vous. Et je naviguais devant le portail, je restais pas en place pour pas me faire allumer quoi. Voilà mon aventure juste avant de revenir.
Tu disais que vous avez manqué de sauter avec le bateau qui vous transportait.
Oui, alors, tous les GMC étaient chargés de munitions.
GMC, donc c'est des camions militaires.
Des camions militaires qui venaient d'Indochine, qui avaient fait le débarquement avec les Américains en 44. Ces fameux camions grillagés pour que personne puisse piquer une caisse à munitions, quelque chose. On les avait descendus dans les cales d'un cargo breton qui avait été détourné en Méditerranée, avec l'équipage réquisitionné, hein, donc les marins bretons. Et la cale, il y avait de la paille qu'on avait écartée pour pouvoir dormir. Alors, un camarade breton me dit, j'ai retrouvé des copains, dis donc, de mon pays. Alors viens, on va aller trinquer dans la cambuse. Alors on est descendu, on a trinqué avec les marins, on a tellement bien trinqué que moi j'avais chaud aux oreilles, mais quant à les deux jeunes bretons qu'il y avait avec moi, ils étaient ivres morts, ils fumaient. En descendant dans la cale, ils ont fait tomber un mégot sur la paille. Et la paille a été après prendre feu. Et ça tombait sur les camions en dessous. Alors on s'est contenté d'écraser le plus possible de paille. On a attendu un petit moment, on a dit bah non, les camions ont l'air de prendre feu. Et voilà ma traversée, ma dernière traversée que j'ai faite en cargo. J'ai mis 48 heures d'ailleurs pour revenir avec toutes les armes.
Une fois rendu à la vie civile, on n'est plus le même. Bon, d'abord, tu as 2 ans de plus.
L'ennui, le manque, je vais dire quelque chose qui est moche, que je ne devrais pas dire, mais le manque d'aventure.
Je me sentais perdu.
Et là, à l'époque, il n'y avait pas de cellules, d'écoute psychologique.
Non, ça me fait sourire par moments quand j'entends ça. Ouais. On a vraiment été totalement ignorés et qu'on l'est toujours. Et je dois dire que moi, la peur, je ne savais pas trop ce que c'était parce que j'étais un excellent tireur. Au PM, pistolet automatique, fusil mitrailleur, il n'y a qu'au fusil, peut-être j'étais le moins bon. Et l'excellent tireur, j'étais sûr de moi. Si j'étais armé, aucun problème, j'aurais fait n'importe quoi. J'étais sûr de moi. Et en revenant, j'avais été largué par un camion de la gare de Tours. J'avais réussi à prendre un camion qui m'avait emmené jusqu'à Montbazon. Et Montbazon, j'avais fait tout le bord de l'Anne, comme ça, en tenue militaire libérable. Et je me suis pris à me retourner plusieurs fois parce qu'il faisait noir. J'étais pas tranquille à ça, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, je me retourne alors qu'il n'y a aucun danger. C'est pour dire comment on était marqué. Et un jour, je me suis réveillé en sursaut aussi, j'ai eu en sueur un gars du FLN qui me pointait son fusil. Moi, je pointais le mien, j'hésitais à tirer, et c'est lui qui a tiré le premier, je me suis réveillé à ce moment-là. Et je me suis réveillé en étant mort, quoi. Pour dire comment ça m'a marqué.
Après... Aujourd'hui encore, tu penses?
Non, ça fait une dizaine d'années que j'y pense plus. Pas beaucoup, hein, 10 ans, hein.
Non, parce que c'est sorti assez spontanément. L'autre jour, quand tu t'es fait bousculer par un policier qui faisait soi-disant du maintien de l'ordre, c'était pas loin sous la surface. Hein.
Je revis les choses. Mais j'ai toujours été engagé. J'ai toujours, par exemple, j'allais donner la nourriture. Je volais des boules de pain. Quand le fourrier venait qui m'attrapait, je dégainais mon pistolet, je mettais une balle dans le canon, le faisais reculer le long du mur. Je prenais des boules de pain sous le bras et j'allais aux grilles de la caserne donner à manger aux jeunes maghrébins qui étaient là. Quelquefois, un ou deux clochards, hein, il y avait à la grille. À chaque fois, je me faisais houspiller par les chefs. Ils me disaient, toi, l'armurier de la 5, tu éjectes. Puis ils me montraient son arme un peu. Je défaisais mon étui à pistolet. Puis je mettais la main sur mon PA sans le sortir quand même. Hein. Alors, ils ne me disaient plus rien. Voilà comment ça se passait.
Je sais qu'il y a au moins 2 principales associations d'anciens combattants. Une, entre guillemets, plutôt de gauche, pour aller vite, hein, qui s'appelle la FNACA. Oui. Et une autre dont le nom m'échappe. Bon, évidemment, les deux associations n'ont pas évidemment la même analyse, hein, sur ces guerres coloniales et notamment la guerre d'Algérie. Là, ce que tu es en train de nous raconter, tout simplement, on est sous un parapluie, place Jean Jaurès à Tours, à côté de la Fontaine. On se trouve là, en fait, dans un truc de gilet jaune. Mais bon, voilà. Mais je suis quand même assez épaté parce que je trouve que ta parole, là, la manière aussi simple que tu as de raconter les choses, c'est très rare. Les gens ne parlent pas. Et est-ce que vous êtes rentré? Est-ce que tu as pu en parler
J'ai toujours vécu ces scènes-là comme si j'y étais. Et je me rappelle même des odeurs. J'ai envisagé à un moment donné de rester en Algérie. Si on avait été bien accueillis par le FLN, je serais resté là-bas parce que j'ai encore l'odeur des oranges, l'odeur de l'anisette à Bab El Oued.
Tu reviens en France en 62, ton service militaire terminé, machin. Est-ce que tu as des gens avec qui en parler?
Non, presque pas. Et même avec les anciens d'Algérie, on était en désaccord. Chacun avait vécu sa guerre d'Algérie, totalement différente les uns des autres. On avait tous vécu une aventure qui était vraiment aux antipodes pour certains. Hein. Je sais que ceux qui étaient dans les pitons, ça n'avait rien à voir avec moi. Moi, j'ai gardé, bien sûr, j'ai gardé des fermes, deux fois. J'étais à Barakine, une zone où là, ça s'était vraiment battu, d'ailleurs. On avait des gens avec des serpes et des hachettes devant nous et des piquets de clôture. Hein. Mais je n'ai tellement de souvenirs qui se bousculent.
Du coup, tu les as pas partagés?
Avec mon fils et tout, et puis ma femme, tu es un petit peu.
De temps en temps, à la télé, ils nous font un documentaire. Il y a le cinéaste Bertrand Tavernier qui a donné la parole à des anciens d'Algérie. Mais silence radio, globalement.
Ce qui est beaucoup plus connu, c'est les appelés qui ont fait leur service dans le bled, beaucoup plus que celui qui a fait son service dans les cités. Par exemple, j'ai manqué de me faire tirer dessus à la mitrailleuse 50 par des soldats parce que il y avait une cité qui s'appelait le Rocher Noir. Ça, beaucoup de gens ne connaissent pas non plus. Le Rocher Noir, c'était une deuxième cité administrative qui remplaçait celle d'Alger, qui était corrompue, pas forcément dans le sens du gouvernement et puis de la légalité, quoi. Et pour couper court à tout ça, ils ont fait cette cité tout en béton, en pleine nature. Un jour, on était sortis tout à fait de notre zone. On était en jeep, 4 bidas, à faire les imbéciles, à aller de gauche à droite avec la jeep. Et on a dit, on va aller jusqu'au Rocher Noir. On en avait entendu parler, mais on connaissait pas. J'ai d'ailleurs pris des photos du Rocher Noir une fois qu'on y était. Et mes photos, je les ai jamais eues. Hein. Donc, à un moment donné, il y a 2 gars qui arrivent d'un contrebas. Et puis, ils nous font signe. On roulait à tombeau ouvert. On leur a fait signe aussi. Salut, salut. 100-150 mètres plus loin, juste dans un virage, il y avait un buisson et il y avait le canon d'une 12-7 qui dépassait. Et heureusement que le sergent, il a eu la présence d'esprit, le chef de poste, de courir sur le, de monter sur la route et nous a fait stopper. Alors là, on a compris qu'il nous faisait stopper. Et il nous a dit, mais vous êtes d'où? Vous faites quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Vous n'avez pas vos casques. On dit, nos casques, ben, ils sont dans le fond de la jeep. On avait pris les calots où on était nu-tête. Les casques, c'était un signe de reconnaissance. Parce que l'OAS avait les mêmes jeeps, piqués à l'armée, les mêmes uniformes, mais c'était pas embarrassé avec des casques. Quand ils avaient piqué les choses, ils avaient piqué les calots, les tenues complètes, les armes, tout, mais pas les casques. Si on avait eu nos casques, on n'aurait eu aucun problème. Mais ils ont manqué de nous tirer dessus parce qu'ils nous ont pris pour des membres de l'OAS qui n'avaient pas de casque avec eux.
T'es quand même dans une association d'anciens combattants, toi, genre FNACA?
J'y étais très longtemps. Ils se défendaient pour nos pensions et tout ça. Je leur ai dit, il faut aller à la préfecture, il faut fiche le bordel et tout, sinon on n'aura jamais rien. J'ai un camarade qui m'a dit, oh ben toi évidemment Christian, toi le syndicaliste, ça fait surface, c'est pour la bagarre quoi. J'ai dit, c'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre si on veut obtenir quelque chose. Ils m'ont dit, non, nous on veut pas de ça. Ben, j'ai dit, votre carte, vous la mettez où je pense, et puis ça a été terminé.
La guerre d'Algérie de 54 à 62 n'était pas une guerre officiellement, elle l'est devenue en 99. Ça a impacté sur les pensions, je suppose. Du coup, toi, entre guillemets, t'as juste fait ton service militaire, fermé les guillemets, t'as pas fait de guerre. Enfin, jusqu'en 99.
Ah ben non, bien sûr. Et oui, l'ironie de l'histoire.
Oui, non, c'était juste bien pratique, en fait, pour pas vous reconnaître en tant qu'ancien combattant, quoi.
Mais le gouvernement, il a fait pire que ça. Je crois que c'était Sarko, je me rappelle plus. Ils ont trouvé le moyen, au lieu de nous donner les pensions au 1er janvier, de nous les reculer de 6 mois, les pensions. Ça faisait un an et demi pour la pension de l'année d'avant, au lieu d'un an. Ils ont eu combien de décès parmi les vieux comme moi? Ils ont gagné de l'argent là-dessus. C'est pas honteux, ça aussi? Parce que j'ai une pension militaire. C'est un peu de dédommagement, mais ben, on l'a dans les papiers quand on la reçoit, mais moi, je lis à peine. Hein. Je survole, et puis c'est des choses qui m'écœurent tellement que...
Pour en revenir à ton expérience algérienne, Christian, t'as pas envie d'écrire un bouquin? Tes mémoires? Témoigner, quoi?
Moi, j'ai un handicap. J'ai eu mon certificat d'études primaires, bien sûr. Mais je fais des fautes parce que je lis pas énormément. Je lisais beaucoup à une certaine époque, mais je lis pas énormément. Je fais des fautes. Je suis lent pour écrire. Faut que je réfléchisse. C'est pas tellement mon truc. Par contre, j'ai ma femme, prof d'allemand, anglais, russe, etc. Bon, donc.
Oui, c'est écrire le français, ta femme.
Alors, justement, c'est ça ce qu'on m'avait proposé. On m'avait proposé de l'écrire à plusieurs, mon fils, ma femme et moi. Et puis, je sais pas, j'ai pas eu le courage, Puis j'ai peut-être pas voulu revivre certains souvenirs aussi. Là, ça me les fait revivre. Hein. À mon avis, je vais avoir des problèmes cette nuit, mais bon, pas énormément, mais je vais avoir des problèmes.
Ce qui est intéressant, c'est de dire ce qui s'est passé, de raconter les faits.
Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Je regrette d'ailleurs que ça soit passé sous silence, tout ça. Et nous sommes les grands oubliés, quoi. Sur la façon dont ils traitent l'armée actuellement, alors que c'est une armée de carrière qui a choisi. Attention, je leur enlève pas le mérite, hein, à ces pauvres gars, au contraire. Hein, mais qui a choisi une chose. Tandis que nous, on n'avait rien choisi du tout. On compte pour du beurre. On ne parle absolument pas de nous, on va être les grands, grands oubliés. On est les grands oubliés, on le sera encore plus quand on sera tous passés de l'autre côté, quoi. Pour employer un terme militaire, qu'on aura passé l'arme à gauche.
Tu crois pas qu'on est arrivé dans une époque où les langues vont se délier? Bon, j'ai plus de vie derrière moi que devant, maintenant c'est le moment d'en parler?
Non, je crois pas. Moi, c'est que par moment hein, que je me mets... C'est un peu la bagarre, là, qui me fait ressortir plein de choses.
La bagarre de gilets jaunes et les manifs, contre la retraite à point.
Et... Tout ça, la retraite à point.
Ça te fait monter une adrénaline.
Oui, tout à fait. Et là, quand je vois les forces de l'ordre, comment ils agissent, c'est pour ça que j'ai piqué ma colère, parce que j'ai fait du maintien de l'ordre, et je peux pas admettre la façon dont ils le font. Parce que moi, je l'ai jamais fait comme ça. Nous, on était dans un pays, on était coupés, beaucoup des médias, parce que les journalistes, ils pouvaient pas beaucoup prendre de photos, ni interviewer, hein. C'est clair, hein, l'armée, elle acceptait pas ça. Hein. On avait tout pour faire ce qu'on voulait, même des exactions. Et malgré tout, on ne se comportait pas comme des salauds, comme ça. Moi, je leur ai expliqué, là. Oui, je leur ai expliqué. Moi, j'avais un sac de 6 grenades. Je n'ai jamais eu le son de la grenade dans une escarmouche quelconque ou un combat. Je les ai entendus seulement exploser en exercice, quand je les ai utilisés en exercice, c'est tout.
Bon, Christian, ça fait 1h30 qu'on est sous la pluie, sous ton parapluie, toi en gilet jaune et moi pas, d'ailleurs. T'as bien causé.
Oui, mais ça m'a soulagé.
Ouais.
Ça m'a fait du bien. Ah, ça m'a fait du bien.
Pourquoi t'en parles pas?
C'est pas facile. Et puis, en parler avec des anciens d'Algérie, c'est agréable. Moi, j'ai mon copain de régiment qui habite à côté de chez moi. On se voit presque tous les jours. Hein. On s'est retrouvés 40 et quelques années après. Il parlait à un voisin qui était en face. Et puis, je salue mon voisin. Il dit, mais je connais cet homme. Alors l'autre, il dit, bah oui, il s'appelle Christian Intel. Et Christian, oh, il dit, non, de là. Il va chez lui, il regarde l'album de photos. Il nous trouve ensemble. Ça faisait 40 et quelques années. Hein. Il est venu habiter à côté de chez moi. Sa femme, elle lui dit, oh, écoute, tu es là depuis 8 jours, tu connais déjà tout le monde, raconte pas d'histoire. Et je te dis que je connais cet homme-là. Et le lendemain, il arrive avec la photo, puis il trouve ma femme en bas. Bonjour madame, vous êtes madame Intel. Il dit, monsieur Intel, il habite bien là. Je dis, oui, bien sûr, ben, je vais l'appeler. Alors, tu me reconnais pas? Moi, j'ai dit, nom de Dieu, Jean-Claude. Comme ça qu'on s'est retrouvés. Il était aux cuisines, il me donnait du pinard, il me donnait des poulets, on était que deux pour les manger. Enfin, des fois, on invitait des gars sûrs. Mais on était obligé de cacher le reste. Alors on cachait les bières qu'on avait piquées aux cuisines. On les cachait dans les autres compagnies pour pas qu'ils puissent tomber sur nous.
Donc ton collègue là et toi, vous racontez la même guerre?
Oui, mais enfin lui, il a été muté, tout ça, on s'est perdu de vue.
Est-ce que vous avez la même analyse de ce qu'on vous a fait vivre?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais lui, après, il était un peu privilégié parce qu'il était avec les officiers et tout. Il était boulanger-pâtissier de son métier. Il y a des gens qui se le sont accaparés pour qu'ils fassent tous les anniversaires, les dimanches et tout ça, quoi. Il a été un petit peu plus, préservé, oui, par rapport à moi. Je pense pas qu'il ait été comme moi un foudre de guerre, parce que moi, j'étais quand même remuant. Et pas l'esprit militaire, pourtant, hein, pas du tout. Hein. J'étais remuant. C'est difficile d'expliquer ce qu'on est soi-même, mais bon, c'est comme ça que je peux le juger par rapport à mes camarades. Hein. Mais je le reproche de ne pas avoir ouvert les yeux un peu plus sur ce qui se passait. Peut-être qu'à la fin de la guerre, ils avaient pris du plomb dans la cervelle, enfin au sens figuré, bien sûr.
Et peut-être aujourd'hui encore plus, je me dis, après, vu que tout ça est très loin maintenant, et que bah, votre génération, vous, comme tout le monde d'ailleurs, vous n'êtes pas éternel. Il y aura bien un moment où il n'y aura plus personne pour raconter ces choses-là. Donc,
c'est ce que me dit mon fils.
C'est ce que ça, je me disais, là, 2020, ouais. Est-ce que c'est finalement pas la dernière fenêtre de tir pour qu'on parle normalement de ce pan de notre histoire de France qui n'est pas très glorieux, faut bien le dire.
Mais non. C'est pour ça qu'elle est oubliée. Hein. C'est pas des heures de gloire. Hein, ça. Moi, je suis pas fier de ma guerre. Hein.
Tiens, on t'a pas demandé ton avis, comme aux 3 millions et demi d'autres.
Non, c'est sûr, mais je veux dire que...
Sans, t'aurais pas voulu y aller, quoi. C'était prison. Un jeune qui est convoqué pour aller faire ce service militaire en Algérie, machin, à cette époque-là, s'il veut pas y aller, il se retrouve en prison.
C'est simple. Nous, on a vu les gendarmes ramener au train. On avait des wagons en bois avec les manivelles dans chaque wagon pour les freiner. Et on avait freiné les wagons. Et la loco a toussé, hein, n'en pouvait plus. C'était une locomotive à vapeur encore. Hein. Et enfin, on a fiché un bon bordel. Mais les gendarmes ont ramené au gare où on s'arrêtait. Ils nous arrêtaient plus en pleine campagne parce que si on voyait un clocher au loin, on y allait pour acheter de la boisson, des casse-croûtes, enfin un tas de trucs parce qu'il n'y a rien qui suivait derrière. Hein. Alors les gendarmes se faisaient insulter, bien sûr, quand ils ramenaient un gars menotté aux mains qu'ils ramenaient au train. Et puis à Marseille, on a eu un gars qui a sauté du bateau. Et le bateau a continué, et après c'est une vedette qui l'a ramené, parce qu'il avait ses parents sur le port, et il n'avait pas accepté de partir là-bas.
Ces gens-là qui ne voulaient pas y aller, soit ils se retrouvaient en prison, soit dans des régiments disciplinaires, non?
Non, mais moi j'avais, je ne sais plus ce que j'avais fait. On m'avait dit, toi, tu vas être suivi. Et en fin de compte, j'ai pas eu plus de problème qu'un autre. Mais non, mon régiment était... On avait notre destination.
C'est que les jeunes gens de 54 à 62, on leur dit, tu vas faire la guerre là-bas, on te demande pas ton avis.
Ben non, puis on ne faisait pas la guerre. On était en maintien de l'ordre. C'est subtil, hein.
Mais c'était pas possible de dire, non, j'ai pas envie d'y aller, je veux rester avec mes parents, ma femme. Ou...
C'est pas possible, non.
T'as pas le choix.
Oui, bien sûr, bien sûr. On n'avait aucun choix. Puis c'était pas une guerre glorieuse, quoi, c'est dommage, quoi. Cette guerre, c'était un gâchis. Un gâchis pour les jeunes, un gâchis pour les habitants, qu'ils soient musulmans ou d'origine européenne. C'était un vrai gâchis, quoi, pour tout le monde. Bon, on va se quitter comme
bon,
ça.
Bah, Christian, merci beaucoup.
Non, c'est moi,
pour
c'est
tout
moi
ça.
Qui te remercie. Hein.
Il l'a encore redit avant qu'on se quitte, Christian, ça lui a fait du bien de vous parler de tout ça. Alors merci à vous les amis de l'avoir écouté, merci à lui bien sûr. Vous pouvez retrouver cette conversation sur notre site polemixetlavoixoff.com où sont en écoute d'autres émissions sur cette guerre d'Algérie dont on parle si peu. Vous n'avez qu'à taper Algérie dans le moteur de recherche de notre site et sinon on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr.